Jamais destiné son église à exercer ni à quelconque pouvoir temporel, ni à contrôle politique, rôle devant être joué par le gouvernement civil. La mission essentielle de l'église était de sauver les hommes de leur péché et de leur donner une foi toujours plus grande et plus forte. Son domaine était donc purement et exclusivement spirituel. L'église a malheureusement s'éloigné de l'enseignement du Nouveau Testament pour finalement apostasier à la fois en matière de doctrine, d'organisation et de culte. De tout cela émergea, après le grand schisme d'Occident au VIe siècle, l'Église catholique romaine. Cette organisation religieuse parvint à dominer le monde de l'époque, aussi bien temporellement que spirituellement. L'autre fraction du schisme donna, quant à elle, naissance à une autre Église qui se proclama orthodoxe, c'est-à-dire prétendument conforme à la doctrine biblique considérée comme seule vraie. L'Église du Christ est une institution spirituelle qui ne cherche absolument pas à dominer temporellement une nation, quelle qu'elle soit, et est apolitique par définition, c'est-à-dire qu'elle ne désire exercer aucune pression, aucun contrôle, quel qu'il soit, sur ses membres ou sur toute autre personne. D'après le Nouveau Testament, l'unique et suprême mission de l'Église est de prêcher l'Évangile, puisqu'elle est, comme le dit Paul à Timothée, l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Par ailleurs, c'est par l'Église, selon l'Épître aux Éphésiens, que la sagesse infiniment variée de Dieu doit se faire connaître au monde. Ce rôle spirituel de l'Église se dégage nettement de la mission confiée par Jésus à ses apôtres. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ceci n'exclut évidemment pas l'aide et le réconfort à apporter à tous ceux qui ont besoin et qui découlent d'une spiritualité qui, loin de s'en tenir à la lettre, s'exemplifie dans des actes concrets. Jacques le dit d'ailleurs, la religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Ces enseignements étaient mis en pratique par les premiers chrétiens. Ils étaient mis en pratique à un point tel que le livre des Actes relate que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il avait besoin. L'Église est donc une institution purement spirituelle, qui, à cause précisément de cela, doit se placer d'emblée au service de l'humanité tout entière. Il existe des assemblées locales de l'Église du Christ sur les 5 continents de notre globe. Où que vous alliez, que ce soit en Afrique, en Asie, en Amérique, en Australie ou en Europe, vous y trouverez des groupes de personnes qui tentent de toutes leurs forces d'être ce qu'était l'Église des origines, celle d'il y a plus de 19 siècles. Nous n'essayons pas du tout de réformer une structure religieuse, une église ou une religion quelconque. Notre seul but est de restaurer le christianisme primitif dans toute sa simple pureté. Les sectes, les associations et groupements religieux de toutes sortes qui déchirent le monde religieux sont contraires aux Écritures et ne sont par conséquent pas en harmonie avec la nature de l'Église du Seigneur. Nous ne reconnaissons qu'une seule autorité en matière de conduite de notre vie spirituelle, le Nouveau Testament. Toute décision de concile, de chef humain, ainsi que tout credo et tradition ne font que surajouter à la volonté de Dieu et nous n'en avons nul besoin. D'ailleurs, ces pratiques sont condamnées par Dieu lui-même. Nous cherchons à nous conformer en tout point à la doctrine, à l'organisation, au culte, ainsi qu'aux pratiques de l'Église primitive. Nous ne voulons écouter un homme que s'il se conforme à ce que dit l'apôtre Pierre. Si quelqu'un parle, que ce soit comme un on sent les oracles de Dieu. Si cet homme enseigne plus que le Nouveau Testament, c'est trop. S'il en dit moins, nous considérons que c'est beaucoup trop peu. Pour rester dans les limites strictes de la parole de Dieu, il importe d'appliquer l'exhortation de Paul nous demandant d'apprendre à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Au premier siècle de notre ère, la parole écrite de Dieu représentait la seule règle de foi et de pratique des chrétiens. Et nous, les membres de cette même Église, essayons de continuer à aligner nos vies spirituelles sur ce Nouveau Testament. Et nous pensons, vraiment au fond de notre cœur, que rien n'est valable aux yeux de Dieu en dehors de l'observation de ces règles-là. L'Église ne peut être véritablement apostolique dans son enseignement, son organisation, son culte et sa pratique, que si elle est en parfaite harmonie avec le Nouveau Testament. Les membres de l'Église du Christ et du monde entier, et ils sont plusieurs millions, s'efforcent de restaurer le christianisme des débuts. Ils prêchent un évangile en tout point identique à celui que proclamaient les apôtres. Ils pressent leurs semblables d'accepter les mêmes conditions préalables au salut, à savoir la foi en Christ, la repentance des péchés, la confession de foi et le baptême par immersion pour le pardon de tous les péchés passés. L'Église du Christ cherche à restaurer l'Église apostolique. Par-delà les siècles d'erreurs, de séparation et d'apostasie, nous prétendons que cette Église est à tout point de vue absolument identique à ce qu'elle était au début. Il a suffi pour y revenir de respecter les enseignements du Nouveau Testament en ce qui concerne son nom, sa doctrine, son organisation, son culte et sa mission. C'est à tout cela que nous voulons rester fidèles, et ce n'est nullement aussi compliqué, ni même aussi anachronique que certains veulent le faire croire. Nous plaidons également pour l'unité de tous les chrétiens qui désirent appartenir à cette authentique Église que Jésus a établie. L'apôtre Paul disait en écrivant aux Éphésiens, « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. » Rien n'a changé depuis 2000 ans à ce principe fondamental. D'ailleurs, tous ceux qui ont la foi, qui se sont repentis, qui ont confessé cette foi et qui ont ensuite été baptisés pour le pardon de leurs péchés, ne sont-ils pas ajoutés par le Seigneur lui-même à son Église? Comme le dit encore l'Épître aux Éphésiens, ne font-ils pas partie de ce seul corps qu'est l'Église de Jésus, acquise par son propre sang? Aussi longtemps que seront proclamés des évangiles différents, que l'on obéira à des conditions de salut dissemblables et que les hommes se joindront à des sectes, aussi longtemps que tout cela existera, le christianisme sera divisé et même maudit par ses dissensions et ses rivalités internes. Le Seigneur, dans la nuit où il fut livré, adressa à son père une prière particulièrement poignante au sujet de ses apôtres et de ses disciples à venir. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, dit-il, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Car là réside le drame. Le monde n'a plus confiance dans le christianisme, précisément à cause des disputes de doctrine, d'idéologie et de parti. Nous qui sommes membres de l'Église du Christ, cherchons à faire comprendre autour de nous que Jésus est l'unique sauveur du monde et que son Église est le seul et unique corps dans lequel nous puissions être sauvés. Il faut absolument retourner au Nouveau Testament et surtout faire ensuite ce qu'il enseigne. C'est alors seulement que vous découvrirez ce que doit faire chaque être humain pour parvenir au salut qu'offre la grâce de Dieu. C'est alors seulement que vous pourrez vous aussi devenir membre de ce corps de Christ, son Église. C'est alors seulement que vous pourrez vous appeler des chrétiens et que vous vous retrouverez parmi de vrais frères et de vraies sœurs en Christ en devenant du même coup co-héritiers de la promesse. Je vous ai parlé d'une restauration du christianisme véritable par un retour à ces Écritures qui nous fournissent tous les détails concernant l'organisation interne des assemblées locales, du culte, des conditions préalables au salut, ainsi que la doctrine que suivait l'Église primitive. Toutefois, la plupart d'entre vous aimeraient, j'en suis persuadé, connaître tout cela par le détail. Il s'agit là d'un sentiment normal et qui vous honore même. Alors, au lieu de laisser s'envoler mes paroles, pourquoi ne chercheriez-vous pas à en savoir davantage sur la volonté de Dieu contenue dans la Bible.
Señor.